Rachid Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Le 3 avril, l'opposition, les syndicats et la société civile de Guinée ont créé le Front national pour la défense de la Constitution. Quelle est votre réaction ?
Il y a un débat dans le pays, un débat autour de la nécessité de doter la Guinée d'une nouvelle constitution pour moderniser les institutions. Et dans cet espace démocratique, je crois que chacun est dans son droit dans cette affaire. Parce que ce front qui est beaucoup plus axé sur des revendications partisanes aussi s'exprime. Je crois que le plus important, c'est que le peuple puisse donner son point de vue sur la question.
Alors, la grande crainte de ce front, c'est que le président Alpha Condé n'en profite pour briguer un troisième mandat en 2020. Est-ce que c'est en effet son objectif ?
Non, je crois que la question d'une nouvelle constitution ne se résume pas strictement à la personne du président ou à la volonté du président d'être candidat ou pas. Le débat n'a pas commencé sur le contenu et l'État lui-même, comme vous avez pu le constater, ne s'est pas exprimé formellement sur cette question-là, laissant le débat se dérouler.
Et quand le président Alpha Condé dit « personne ne m'empêchera d'aller devant le peuple pour lui demander ce qu'il veut faire », est-ce le signe que ça y est, il est déterminé à consulter le peuple par référendum pour introduire une nouvelle constitution ?
Ben, je crois que les voies, en tout cas sur le plan légal, sont tout à fait indiquées pour l'adoption d'un référendum. Vous savez que l'initiative de référendum appartient concurremment aux députés, aux présidents de la République. Je crois que ce que le président a voulu simplement dire là, qu'on ne peut pas parler au nom du peuple sans demander son sentiment au peuple.
Alors pour aller vers ce référendum, il faut d'abord passer par le dépôt d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. Quand aura-t-il lieu ?
Bon, je crois que vous avez pu observer que pour l'instant, le mandat de l'Assemblée nationale est arrivé à expiration, qu'il faut donc de nouvelles élections législatives.
Alors, si je vous comprends bien, on fait d'abord les législatives et ensuite le référendum.
Oui, non, mais comme vous me parlez de projet de loi, je dis, bon, l'option peut-être la plus plausible, c'est que le pays va renouveler son Assemblée nationale et que cette Assemblée nationale peut, une majorité peut être porteuse d'un projet qui peut être mise ou à l'Assemblée ou à la volonté populaire.
Alors, vu la saison des pluies qui démarre, il n'y aura pas de législative avant octobre-novembre 2019. Est-ce que ça veut dire que le référendum éventuel, ce serait pas avant décembre 2019, voire janvier-février 2020 ?
Je crois que dans cette affaire, chacun doit faire son travail. La CENI doit faire son travail en proposant un chronogramme. Le président doit valider le chronogramme pour la date de scrutin. Maintenant, toutes les considérations techniques que vous évoquez, elles sont réelles. C'est vrai qu'il y a une période où c'est difficile d'organiser des élections. Mais je crois que le plus important, c'est que le processus soit bouclé cette année. Parce que là, pour l'instant, on ne parle même pas de contenu. Parce que le débat est un peu squeezé par le fait qu'on a réduit la question de la nouvelle constitution à la question de savoir si le président se présente ou pas. Ça, c'est assez réducteur. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments importants aujourd'hui qui méritent d'être mis en avant dans cette constitution.
Mais de facto, Rachid Ndiaye, s'il y a une nouvelle constitution, si on remet les compteurs à zéro, Alpha Condé pourra se représenter.
Ben, vous savez, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle constitution. Je crois qu'on ne pose pas la question aujourd'hui au président ivoirien de savoir s'il va être candidat ou pas. Je crois, encore une fois, si on dépasse la question du seul président, c'est la volonté du peuple qui prime sur le reste.
Donc on est un peu dans le scénario Côte d'Ivoire de ces dernières années et Togo des années à venir, visiblement. C'est l'objectif apparemment partagé par Forna Sinbé. C'est-à-dire, on introduit une nouvelle constitution pour remettre les compteurs à zéro et pour permettre au président sortant de repartir pour un nouveau mandat, voire deux nouveaux mandats.
Bon, comparaison n'est pas raison, mais je crois aujourd'hui, le plus important, c'est une loi fondamentale qui puisse prendre en compte de nouvelles aspirations. Je pense notamment à toutes ces mesures concernant la décentralisation, l'organisation du pouvoir, la protection des femmes et des enfants, la représentation de la diaspora, la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et ça, ça me paraît beaucoup plus important.
Alors, selon le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, la modification de la Constitution qui tendrait à augmenter le nombre de mandats est sanctuarisée dans la Constitution actuelle. Est-ce que votre projet de réforme ne risque pas d'être hors la loi ?
Non, pas du tout. Les constitutions ne sont pas figées. Une nouvelle constitution est une nouvelle constitution.
Sidya Touré disait à notre micro hier, 10 ans, ça suffit, une seule personne ne peut pas confisquer l'avenir de 12 millions de Guinéens.
Bon, le plus important, c'est de savoir ce que veut le peuple. Est-ce que le peuple est désireux d'orienter la Guinée vers une nouvelle constitution ? Est-ce que le peuple est désireux de maintenir ses dirigeants ou pas ? Mais ça, c'est la volonté populaire qui va le trancher.
Depuis 9 ans, depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, l'opposition dit qu'il n'y a pas une seule ville de Guinée où il y a une fourniture d'électricité ne serait-ce que 12 heures par jour et que le bilan d'Alpha Condé est très mauvais.
Non, ça c'est inexact parce que si vous regardez uniquement le secteur de l'énergie, le potentiel énergique c'est multiplié par 3 quand le président Alpha Condé arrive au pouvoir en 2010. Et la capacité énergétique dépassait à peine 100 mégawatts. Alors que quand même, concrètement, depuis là, on a construit le barrage de Kaleta qui a plus de 240 mégawatts. On a lancé le barrage de Swapiti qui est de 450 mégawatts. Et également, on a posé la première pierre du barrage d'Amaria. Je crois que c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand. Naturellement, il y a beaucoup de défis que le pays doit surmonter. Et naturellement, personne ne pense du côté du président de la République et du gouvernement que tous les problèmes ont été réglés en 8-9 ans. N'oubliez pas quand même que le processus démocratique ne démarre qu'en 2010.
Et c'est pour ça qu'Alpha Condé veut faire 50 plus?
Bon, vous savez, ça vous, à une occasion, je crois que la question lui sera posée. Mais le plus important aujourd'hui, c'est beaucoup plus parler des sujets vitaux pour le pays que des intérêts personnels des uns et des autres. Ce n'est pas du même ressort.
Mais il y a un sentiment d'inachevé chez Alpha Condé.
Je vous suggère de lire son dernier livre d'entretien qui vient de paraître. Je crois que c'est un homme qui veut s'inscrire dans l'histoire. C'est un homme qui veut laisser des traces importantes. Le pouvoir, c'est le temps et la durée.
L'opposition souligne le fait qu'en 9 ans, depuis que le président Alpha Condé est au pouvoir, pas une seule nouvelle université, pas un seul nouvel hôpital n'a été construit.
Ah, ça, je pense que si vous regardez Conakry ou regardez la Guinée, il n'y a presque pas une sous-préfecture aujourd'hui où un centre de santé n'a pas été créé. Que ces contradicteurs estiment que tous les problèmes n'ont pas été réglés en 9 ans, 10 ans, ça, on peut l'admettre. Mais on ne peut pas dire que les efforts n'ont pas été faits.
En Afrique de l'Ouest, prenons par exemple deux camarades socialistes d'Alpha Condé, le Malien Ibeka et le Nigérien Mahamadou Issoufou. Tous deux annoncent qu'ils partiront à la fin de leur deuxième mandat.
Bien, c'est un choix qui a été fait par ces deux chefs d'État et les réalités ne sont pas les mêmes. Peut-être que dans ces deux pays, il n'y a pas une réalité interne en faveur d'autres solutions comme on peut le constater aujourd'hui en Guinée. Tout dépendra de ce que décidera la majorité de la population. Je crois que le plus important, c'est ce que veut le peuple. Et les situations diffèrent de pays en pays. Il n'y a pas de règles intangibles. Je crois que c'est du cas par cas.
Alors vous dites qu'il y a une totale liberté en Guinée, mais il y a tout de même eu des arrestations parmi les anti-troisième mandat. Et Sidya Touré vous fait cette réflexion. Vous ne pouvez pas organiser dans les quartiers des mouvements pro-troisième mandat et arrêter ceux qui manifestent contre le troisième mandat.
Non, je crois que ça, c'est la question qui relève du maintien de l'ordre public. Je crois que dans tous les pays, il y a des règles. Vous avez vu à Paris également, il y a combien de près de 2000 interpellations.
Vous comparez avec la répression des gilets jaunes en France, mais la grande différence, c'est qu'en Guinée, il y a des gens qui sont tués par balles, parce que la police tire à balles réelles. Plus de 100 morts depuis 9 ans.
Il y a beaucoup d'actions qui sont en justice, actions dans lesquelles il y a à la fois les pertes de vie humaine, aussi bien du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre. Je crois que sur cette question-là, il y a des commissions d'enquête, il y a des poursuites judiciaires à ce niveau. Je vous fais remarquer qu'il y a des policiers qui ont été arrêtés pour s'être mal comportés durant des manifestations.
Rachid Ndiaye, merci.